Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC 01TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur RMC le dimanche matin, mais aussi, vous le savez, en vidéo sur 01TV.com, sur la chaîne YouTube de 01TV et sur vos box sur la chaîne 01TV. C'est de quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver avec tout à l'heure eh bien, les nouveautés Amazon. Amazon Device qui n'a pas chômé ces derniers mois malgré l'épidémie, avec de nouveaux Echo Show, de nouvelles box télé, mais aussi de nouvelles caméras. Pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, puis Alexa qui s'améliore. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Dali, qui est le papa d'Alexa en France et qui commentera toutes ces annonces qui ont été dévoilées il y a quelques heures à peine. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle si vous voulez participer aux discussions passionnées dédiées à la tech qui se déroulent sur Facebook. N'hésitez pas. Merci d'être là et bienvenue. Et de quoi je m'appelle, bien sûr, pour débuter, c'est toujours le club de la presse IT avec Nicolas Lelouch qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Le journaliste spécialisé smartphone et tech d'une manière générale sur 01net.com. Et puis c'est Emmanuel Paquette aussi qui est là aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Journaliste à l'Express pour commenter pas mal d'actualités cette semaine et à commencer par cette menace. Alors on y croit, on n'y croit pas, on va bien voir. Hein. Instagram, Facebook, avec un porte-parole de ces deux géants qui menacent de quitter l'Europe.
Oui, effectivement. Alors tout ça à cause d'un trentenaire, Max Schrems, donc c'est un trentenaire autrichien. Il a en fait lancé une bataille contre Facebook à peu près depuis 2011, hein, donc c'est ancien. Et il a réussi, au bout de plusieurs procédures devant la Cour de justice européenne, à obtenir gain de cause et à empêcher en fait Facebook d'envoyer les données des Européens qui sont collectées ici, de les envoyer aux États-Unis. Alors le principe, c'est de dire qu'en fait, le niveau de protection des données des Européens n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. Pour deux raisons principales. Alors, je suis pas juriste, mais c'est ce que j'ai compris. Le premier, c'est que un Européen peut pas avoir de recours juridique aux États-Unis sur ces données qui ont été collectées. Et le deuxième point, c'est que les Européens sont directement soumis au programme de surveillance des services de renseignement américains, alors qu'ils sont Européens. Et du coup, ne devraient pas être soumis à ce genre de choses. Donc, un défaut de protection. Donc, il a gagné une première partie en 2015. Donc, c'était la fin de ce qu'on appelle du safe harbor. C'était en fait la protection des données entre l'Europe et les États-Unis. Donc, Bruxelles et Washington ont dû renégocier un nouvel accord qu'on a appelé le Privacy Shield, donc le bouclier de protection des données. Et là, mi-juillet, la Cour de justice européenne a dit que le Privacy Shield était insuffisant pour protéger les Européens et demande à Facebook de faire respecter le droit et donc de stocker et d'héberger les données des Européens en Europe.
En gros, si j'ai bien compris, étant donné que je stocke des informations privées sur Facebook, Instagram, etc., si un juge aux États-Unis dit « bah tiens, François Sorel, on aimerait bien voir un peu ce qu'il a mis, etc. », le juge demande, Facebook exécute. Exactement. Et donc toutes ces informations de François Sorel européen, oui, pour être en accès libre, en fait, pour un juge américain.
Voilà, sans que toi, tu aies des recours, en plus.
Sans que moi, je puisse avoir des recours.
C'est ça, en fait, le problème. Si il y avait une possibilité de recours, là, on serait comme dans un cadre normal.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est cette impossibilité-là qui fait qu'il y a une différence de traitement entre les Européens et les Américains.
Et là où ça se complique, c'est que, est-ce qu'on peut imaginer que Facebook et Instagram se plient à ces obligations européennes, Nicolas ?
Ce qu'ils ont dit, c'est que c'était infaisable dans le sens où ils disent qu'on ne peut pas transférer autant de données en Europe et donc que pour eux, il serait limite plus rentable de quitter l'Union européenne et voilà, de déserter ce marché. Après, on se doute que c'est un coup de bluff, que Facebook et Instagram ne vont sans doute pas quitter l'Europe pour une histoire de données. Et moi, ça me fait penser beaucoup à ce qui s'était passé il y a quelques années avec l'article 13 sur YouTube. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était justement cette directive européenne qui remettait en question justement la manière dont fonctionnaient les droits d'auteur. Et du coup, YouTube avait fait une grosse campagne de com' avec les youtubeurs pour leur dire l'article 13 va tuer Internet, va tuer YouTube. Et du coup, le but est d'avoir l'opinion publique avec soi. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec Facebook et Instagram. Ils font passer l'Europe pour les méchants qui veulent les priver de leurs services préférés dans le seul but justement de conserver leurs privilèges.
Alors, il y a une petite différence quand même, hein, c'est que là, ça s'étend à plus de 4000 sites internet, notamment même des sites internet de, par exemple, le Roi Merlin, Decathlon, le Huffington Post, par exemple, qui appartient au Monde, parce que Max Schrems, donc, qui a intenté une action contre 101 sociétés européennes, estime que ces sites Internet utilisent Facebook Connect ou Google Analytics pour collecter des données d'Européens et les envoyer à Facebook, qui lui-même les envoie aux États-Unis. Donc il y a une incidence qui dépasse très largement le cadre de Facebook.
Oui, complètement, bien sûr.
Alors, un portrait de Max Schrems est sur l'Express, puisque tu as eu la chance de l'interviewer il y a quelques jours.
Oui.
Quand tu lui dis, est-ce qu'il y croit, lui il est dupe de tout ça? Est-ce qu'il croit que Instagram et Facebook vont...
Pas du tout. Il y croit pas du tout. Il dit que c'est un énorme coup de bluff. Voilà, pour lui, c'est... En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires l'Europe pour Facebook. C'est 25% de son activité mondiale. Donc, ils ne vont pas s'asseoir sur 25% de leur activité mondiale. C'est la deuxième région derrière les États-Unis. Donc, voilà. Donc, non, il n'y croit pas du tout. En revanche, lui, il estime qu'ils vont être obligés à un moment donné de stocker, d'héberger les données des Européens en Europe. Donc, ça va demander des investissements de la part de Facebook. Mais lui, il dit, voilà, c'est comme ça. Ils vont être contraints. Et c'est la loi. Et maintenant, ils vont devoir l'appliquer. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est la CNIL européenne, qui est basée, la CNIL irlandaise, pardon, qui doit faire appliquer la décision de la Cour de justice européenne. Et la CNIL irlandaise, elle est un peu, disons, entre deux chaises. Parce que, pour
parce
pas
que
dire
toutes
le
ces
mot,
boîtes-là sont là-bas.
Exactement. Donc tous les sièges de Google, de Facebook sont là-bas. Donc,
Apple aussi.
Apple, enfin. Voilà. Donc c'est-à-dire que les impôts sont payés là-bas en partie. Ouais. Ça veut dire que les emplois sont créés là-bas. Donc ils peuvent taper, mais en même temps, pas trop.
Oui,
donc,
pas trop.
Ouais, donc c'est compliqué pour la CNIL irlandaise. Hein.
Ouais. On sait comment ça va se terminer, cette histoire-là, ou
La CNIL irlandaise a été obligée de demander à Facebook de se mettre en conformité. Ouais. Facebook, aujourd'hui, a fait un recours devant la CNIL irlandaise et on attend une décision d'ici le mois d'octobre. Donc, ce n'est pas encore terminé. Mmh. Et je pense que Facebook va se battre et va essayer de détendre le plus possible son combat devant les prétoires. Et puis, encore une fois, derrière, ça veut dire que Twitter va être touché, Google va être touché. C'est
bien
pas
sûr.
Simplement...
Ça
va
faire des données,
exactement. Sur Internet.
Donc, forcément, les autres vont s'allier à un moment ou à un autre, puisque si Facebook flanche, bah, tout le reste de l'industrie va flancher.
Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces boîtes américaines décident d'enlever leurs données de leur pays pour les stocker sur un autre continent? Moi, ça me paraît surréaliste quand même.
Alors, la Chine oblige à faire ça, par exemple.
Ah d'accord, ils le font déjà.
Ouais, exactement. Alors, il se trouve que Facebook...
Oui, mais il n'y a pas de redondance de ces données? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut garantir à la Chine que ces données ne sont pas en redondance, par exemple, en Occident, en Chine, aux États-Unis, par exemple, ou en Europe? C'est ça le truc.
C'est compliqué à dire, mais en tout cas, dans le cas d'Apple, qui est un des rares GAFA présents en Chine, les données iCloud en Chine sont stockées sur des serveurs chinois, et c'est la loi et c'est l'obligation,
oui, c'est
sinon ils n'ont pas le droit d'être là. Et de la même manière, c'est ce qu'est en train de faire Donald Trump avec TikTok, en leur disant les données des utilisateurs de TikTok, c'est aux États-Unis. Donc en fait, ce problème-là n'est pas exclusif à l'Europe, c'est qu'un problème mondial, et tout le monde veut les données de ses utilisateurs dans son territoire.
Exactement. Ça légitimise finalement un peu cette décision européenne.
Exactement. Même elle est, pour moi, elle est plus forte parce que ça vient du droit, alors que dans le cas de la Chine et de la cas des États-Unis ou même de la Russie, c'est des décisions politiques.
Oui, oui, oui.
C'est
donc
ça.
Je trouve que nous, pour le coup, on a une force qui est notre démocratie et nos lois.
Donc, les autres, ça a l'air d'être des coups de force. Là, ici, c'est vraiment poussé par quelque chose de légitime, donc c'est assez intéressant.
C'est un gros sujet. Dans l'actualité cette semaine, c'est la guerre des consoles avec évidemment Xbox, Sony, etc. Et puis Amazon, hein, on en parlera très brièvement tout à l'heure avec mon invité d'Amazon. Amazon qui se lance dans le cloud gaming, hein. Aussi.
Oui, ça c'est la surprise, hein. C'est tout frais comme annonce. On ne l'avait pas vu venir, on savait qu'Amazon travaillait sur du cloud gaming, on savait qu'Amazon aime le jeu vidéo, vous savez, ils sont propriétaires de Twitch quand même, hein. C'est pas n'importe quelle plateforme en termes de jeux vidéo. Maintenant, là ils ont annoncé Luna, qui est un service concurrent de Stadia et du xCloud, et ce que je trouve très intéressant à titre personnel, c'est qu'il nous prouve qu'il n'y a vraiment pas de modèle économique défini à l'heure actuelle sur le cloud gaming. Pourquoi ? Parce que Stadia, vous savez, c'est vous avez soit une offre gratuite, soit une offre avec un abonnement, mais vous devez acheter les jeux à l'unité. Oui. Alors que le Game Pass, c'est un fonctionnement Netflix, on paye un abonnement mensuel et on a accès à tous les jeux et il n'y a pas d'achat supplémentaire à faire. Et ce que fait Amazon, c'est complètement nouveau, c'est que vous avez en fait la plateforme Luna, et en fait vous allez payer un abonnement pour chaque éditeur. Donc vous voulez les jeux d'Ubisoft, c'est $15. Vous voulez les jeux d'une autre plateforme, ça sera encore une somme à déterminer. Donc, on a une nouvelle fois la preuve que le cloud gaming est encore un marché très nouveau, qui se cherche, et que personne n'a encore trouvé de formule magique. On ne sait pas si le Game Pass sera rentable, on ne sait pas si Luna sera rentable, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une nouvelle fois, le jeu vidéo se déplace vraiment vers la Silicon Valley.
On en parlera tout à l'heure, mais avec un aspect technique intéressant, hein, pour la latence, pour la baisse de la latence, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais la manette que Amazon va vendre ne se connectera pas directement aux devices qui sont à côté de la télé, mais directement sur les serveurs d'AWS, et ça fait gagner 20 précieuses minutes millisecondes pour gagner en réactivité dans les jeux, ce qui est plutôt malin, je trouve.
Ce qui est aussi la promesse de Stadia. Si on joue à Stadia depuis un Chromecast, la manette est directement connectée au réseau et non pas en Bluetooth. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, ces approches d'Amazon et Google qui ne font pas du jeu vidéo comme tout le monde. Et ça va être à suivre,
avec la puissance des serveurs AWS. Hein, voilà.
Bah oui, parce que c'est des acteurs effectivement de l'hébergement, enfin des bases de données. Et donc, des data centers, et donc effectivement, ça les aide beaucoup.
Très bien. Dans le jeu vidéo aussi, il y a pas mal d'autres nouveautés.
Bien sûr.
Alors, les précommandes de la PS5, ça commence un petit peu à s'embouteiller, là,
oui,
visiblement.
Oui, là, on est en pleine. On est à presque un mois du lancement de la next-gen. Donc là, ça y est, ça commence vraiment à s'intensifier.
Là, les usines, ça doit chauffer.
Ça doit chauffer. Sony, Microsoft, ça doit chauffer aussi du côté des commandes. Et justement, les précommandes de la PS5 qui ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Enfin, ça dépend. Ça s'est passé comme prévu d'un point de vue résultat, parce que voilà, c'est rupture de stock mondial. Oui. Donc, je pense que Sony
ça, c'est
est content à ce point.
De la part de...
Il y a aussi évidemment l'aspect marketing. Là, ils ont remis du stock vendredi matin, donc ce qui signifie qu'ils s'en gardent un petit peu de côté, histoire d'entretenir le buzz. C'est une méthode classique de vente. Mais le problème, c'est que contrairement à Microsoft qui a donné un horaire de précommande, Sony, ils ont dit un peu aux revendeurs, faites ce que vous voulez. Donc on s'est retrouvé avec une guerre, avec des gens à 2h du matin qui essayaient de commander une console, et il n'y en avait plus à 2h30. Et donc du coup, c'est évidemment frustrant. Sony a dû s'excuser, ils ont fait un tweet où ils ont dit, ok, ça aurait dû être plus fluide. On est désolé, on va faire le maximum pour ajouter du stock d'ici la sortie pour que vous soyez servi le premier jour. Mais ça reste une mauvaise expérience pour les joueurs du côté de Sony.
C'est plus calme chez Xbox ou pas ? Ou est-ce qu'il y a aussi des tensions ?
Ça a été mieux géré dans le sens où, en fait, ce qu'a dit Microsoft, c'est rendez-vous mardi à 9h. Et à 9h, tout le monde a ouvert les précommandes à peu près au même moment. Ça s'est décalé sur une ou deux heures en fonction des revendeurs. Mais après, c'est pareil, il y a aussi des ruptures de stock, notamment sur la Xbox Series X, qui est leur console ultra haut de gamme. Donc c'est la preuve qu'il y a une vraie attente des consommateurs sur ces nouvelles consoles. Le risque, c'est la déception, hein, bien sûr, hein, parce qu'on dit beaucoup, est-ce qu'il va vraiment y avoir un changement significatif d'une console à une autre ? Là, on a appris, par exemple, cette semaine, que Sony, qui se présentait comme le roi de la rétrocompatibilité, comme celui qui allait aussi proposer les jeux PS4 mis à jour sur PS5 gratuitement, n'était pas aussi clean que ce qu'il le promet.
Oui, avec Spider-Man, notamment.
Notamment, oui, le nouveau jeu Spider-Man Miles Morales, en fait, qui est un spin-off, donc c'est un dérivé du premier jeu Spider-Man. On pensait que le jeu Spider-Man allait pouvoir être jouable sur la PS5 facilement, mais en fait non, il va falloir le racheter si vous l'aviez déjà sur PS4, et surtout la sauvegarde que vous avez sur PS4 ne va pas marcher sur PS5. Donc on se dit, c'est pas vraiment pensé pour les joueurs cette expérience, c'est pensé pour faire de l'argent, mais pas du tout pour celui qui a commencé un jeu sur PS4 et qui a envie de l'améliorer sur PS5. Donc à voir si Sony va en souffrir, ça a l'air pour l'instant pas du tout le cas, hein. Les gens ont confiance en Sony, donc ils vont avoir des bons résultats en fin d'année, à voir sur les prochains mois.
Emmanuel, nous, on a fait un sondage à 01 et on demandait en fait à tous ceux qui nous regardaient sur 01 TV ce qu'ils choisiraient le jour où ces deux consoles sortent. Et on a 70% PS5 et 30% Xbox.
Il y a vraiment un succès de la marque PlayStation.
Voilà,
un succès de la marque PlayStation.
Est-ce que c'est représentatif finalement du marché 70-30 peut-être ?
Non, je crois que la France et Sony, il y a une histoire d'amour depuis longtemps sur la PlayStation. La France a toujours été plus PlayStation que Xbox historiquement. Alors je sais pas l'expliquer, mais ça a toujours été comme ça. Bon, après c'est moins vrai dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Je crois qu'en Angleterre, Microsoft est plus fort, la Xbox est plus forte que la PlayStation. Donc ça dépend d'un pays à l'autre.
D'accord. Bon, on verra bien, hein, cette bataille qui va être sanglante, hein, avec ces deux géants qui sortent quasiment en même temps leur console.
Et rajoutant un élément fort cette semaine, qui est que Microsoft a racheté Bethesda, qui est quand même un immense studio, c'est des milliards de dollars
dépensés. C'est Doom, hein, Bethesda.
C'est Doom, c'est Skyrim, c'est Fallout, c'est plein de jeux. Et ce qui est encore une fois très amusant dans l'approche, c'est qu'on sait que Sony achète des studios et on fait des exclusivités, et Microsoft n'est pas du tout dans cette démarche. Pour l'instant, ils ont l'air de dire, on veut en fait donner ces jeux gratuitement à nos abonnés Game Pass, on veut pouvoir les supporter, investir là-dedans, mais ils ne sont pas du tout fermés à l'idée de les lancer sur PS5. Et donc c'est très amusant parce qu'il y a un côté good cop, bad cop, avec d'un côté Sony qui est le roi absolu du jeu vidéo, qui n'a pas peur en fait de ne pas partager avec les autres, et Microsoft qui veut dire moi je partage, j'ai un abonnement, les gens ne payent pas les jeux. Donc à voir à la fin qui gagne la guerre. Pour l'instant c'est plutôt Sony qui gagne, mais bon, dans 2-3 ans peut-être qu'il y aura une inversion des tendances.
Quand on voit la durée de vie aujourd'hui d'une console, hein, en moyenne 7 ans,
ouais, c'est ça.
Je veux dire, là, voilà, la nouvelle génération commence, Et ils ont 7 ans pour se combattre.
Oui. Avec le cloud, avec plein de choses. C'est assez passionnant.
Exactement. Et sans doute qu'on pourra aussi, dans quelques années, connecter toutes ces consoles à la 5G. La 5G, qui est dans les starting blocks, vraiment, là, Emmanuel.
Oui, depuis le temps.
Dans un contexte un peu particulier.
Toujours. Ouais.
c'est le 29 septembre que le coup d'envoi des enchères arrivera.
Alors, bon, c'est un petit peu compliqué. Hein, donc, j'essaie d'expliquer. J'espère être clair. Mais en gros, il reste, en fait, l'équipe de 110 MHz, donc 11 blocs de fréquence de 10 MHz à donner aux opérateurs, à céder aux opérateurs. Donc il va y avoir des enchères qui vont débuter le 29 septembre. Et la question, c'est jusqu'à quand vont durer ces tours d'enchères ? Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Les opérateurs se mettent autour de la table, font deux demandes, chacun de leur côté. Et si au total, ils demandent plus de 11 blocs, eh ben, on fait un deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est plus 70 millions d'euros par bloc. Là, l'ARCEP a décidé de rajouter 5 millions par tour. Donc on repart à 75 millions. Rebelote, deuxième tour, s'il y a plus de 11 demandes, on réincrémente de 5 millions, donc 80 millions d'euros pour un bloc. Et ça, ça dure 8 tours par jour. Ce qui veut dire qu'à la fin d'une journée, le coût de la fréquence sera de 440 millions d'euros supplémentaires.
Tu sais comment ça se passe ? Ils sont devant SFR, Bouygues, Orange, Free, ils sont devant un ordinateur et ils achètent les enchères comme ça ?
Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'ils remettent des offres. Alors, je pense que c'est autour de...
J'aimerais bien savoir comment ça
avec
se passe.
Avec des pancartes.
Non, mais c'est vrai. Et en plus, ça, c'est des sommes monstrueuses, quoi. Donc,
alors, les sommes sont fixées, pour le coup. Hein, donc, ce n'est pas je parie de l'argent et j'attends de voir. Hein, donc, c'est 70 millions. Puis après, on augmente de 5 millions à chaque tour. Ça, c'est évident. La vraie question, c'est combien de blocs chaque opérateur va demander. Sachant que, pour compliquer un peu la donne, un opérateur ne peut pas candidater sur plus de 5 blocs, puisque chacun en a déjà 5, donc 5 plus 5, aucun opérateur ne peut en avoir plus de 10, sinon celui qui aurait le plus d'argent, il raflerait tout, donc l'idée c'est de plafonner le nombre de blocs.
Orange pourrait tout rafler.
Exactement,
finalement.
Exactement. Donc Orange, au maximum, peut acheter 5 blocs, il en resterait 6 pour les autres, donc les 3 autres. Donc le jeu, c'est de savoir... Chacun, alors c'est ce qu'on appelle la théorie de jeu, donc chacun dans son côté a élaboré des scénarios, et aujourd'hui vont les mettre à exécution. Alors généralement c'est des polytechniciens qui travaillent dessus, hein, donc pour voir tous les schémas possibles, combien de blocs, quel bloc, à quel prix, que va vouloir SFR, que va vouloir Orange, que va vouloir Free. Donc c'est extrêmement compliqué, ça peut durer longtemps et ça peut monter les enchères très très hautes, puisque à 70 millions par bloc, on commence à 770 millions pour la totalité des blocs. Mais très vite, on peut monter à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Ça a duré comme ça en Allemagne pendant des mois. On va voir jusqu'où sont prêts les opérateurs à aller.
Donc, il n'y a pas une date butoir.
Il n'y a pas de date butoir, non.
C'est quand tout est vendu que
alors, il faut qu'à un moment donné, l'offre des 4 soit égale à 11 blocs. Et si là, c'est égal à 11 blocs, bah, le prix va être connu et puis là, ça se termine.
On a une idée de jusqu'à combien ça peut monter ?
Non, j'ai posé la question à l'ARCEP. L'ARCEP elle-même ne sait pas. Ils m'ont dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Ça sera plusieurs milliards, ça c'est sûr.
Bah, c'est-à-dire que, encore une fois, là, on débute. Bah, imaginons que dès le début, à la première enchère, ils se mettent tous d'accord et qu'il y ait 11 blocs, ça peut s'arrêter le matin même. Donc, et à ce moment-là, avec un prix du bloc à 70 millions fois 11, on sera à 770 millions. En revanche, s'il faut plusieurs tours, bah, ça peut effectivement aller très très vite.
L'objectif d'un opérateur, c'est d'avoir un maximum de blocs, on est d'accord ?
C'est
ça, pour avoir plus de débit, pour avoir plus de fréquences,
voilà,
etc. Parce que derrière tout ça, c'est le débit. Hein,
c'est le débit, voilà, c'est de la réallocation aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque opérateur a des morceaux de spectre, et donc en fait, rajoute ces morceaux-là qui vont lui être donnés, et donc fait un peu d'arbitrage entre ces différents spectres. C'est assez compliqué. Hein.
C'est compliqué, ouais. mais ça va se décider là.
Ça va se décider là.
Et donc, à la suite de ces enchères, on va dire qu'après, les opérateurs seront propriétaires de leur bande de fréquence.
C'est ça.
Et après, rien ne les empêche de lancer leur offre commerciale, en fait.
Après, il faut quand même déployer le réseau. Ça
prend du temps. On sait que, enfin, c'est un secret polichinelle. Il y a plein d'endroits où le réseau est déjà développé.
Il y a quelques endroits, voilà. Ils peuvent,
Certaines villes de France, il y a déjà de la 5G, mais elle n'est pas activée commercialement. Mais
en fait, c'était des tests. Voilà.
Parce que je pense que malgré tout, malgré le contexte actuel, on va avoir une petite bataille commerciale sur le lancement de la 5G à la fin de l'année, parce que on sait que l'iPhone sera 5G. Et je pense que ça va être un plus pour un opérateur de dire, écoutez, vous avez l'iPhone 5G, mais vous savez quoi ? Paris, Marseille, Bordeaux, chez tel ou tel opérateur, il y a déjà de la 5G.
Ouais,
et je pense que ça peut être accrocher certains consommateurs.
Surtout, effectivement, comme tu disais, avec le nouvel iPhone. Donc, effectivement, il y a la conjonction des deux en France qui va arriver. Nouvel appareil plus ce nouveau réseau. Après, la crainte, c'est pour ça que la DGCCRF, la direction de la répression des fraudes, a été saisie. C'est est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des offres 4G qui vont être vendues 5G, alors que ça ne sera pas de la 5G, mais de la fausse 5G. À combien les offres vont être établies. Donc, ils ont une crainte au niveau de la DGCCRF de voir ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est-à-dire des logos 5G s'afficher sur des téléphones, alors qu'en réalité, on est toujours sur la 4G. Donc bon, voilà. Donc il y a beaucoup encore d'interrogations aussi. Et puis le gouvernement scrute ça de près, hein, pour le coup.
Ouais. La fausse 5G, ça c'est...
C'est un classique aux États-Unis, ils avaient déjà fait la fausse 4G avant, c'est très commercial.
Finalement, des fausses ça, il y en a partout, même sur les logos des téléphones.
C'est dingue, c'est assez
toi
étonnant.
Toi qui tes téléphones tout le temps, t'as déjà vu un logo 5G ou
non,
pas sur
non,
un téléphone
je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu en Suisse, j'avais été invité par un opérateur suisse pour tester
à
la
5G. À l'époque où tu pouvais encore voyager.
À l'époque où on avait le droit, justement, la Suisse qui a été un des premiers pays à avoir 100% de couverture 5G. Ouais. C'est pratique, hein. Enfin, deuxième Monaco, je crois, en premier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cet avantage. Monaco, c'est facile, une antenne.
Non,
je dis ça en tant que Niçois qui a passé beaucoup de temps à Monaco et qui embrasse tous les monégasques qui nous écoutent.
Un mot sur Tesla, tiens, maintenant. Tesla qui a annoncé quelques... Alors, on s'attendait à des annonces peut-être un petit peu plus costaudes, mais malgré tout, il y a eu deux, trois trucs sympas, notamment une Tesla Model S qui pourrait avoir jusqu'à plus de 800 km d'autonomie, je crois.
Oui, c'est ça. C'était un événement qui s'appelle le Battery Day, donc le jour de la batterie, évidemment, qui s'est un peu transformé en one-man show d'Elon Musk. C'est comme ça que ça a été décrit dans beaucoup d'articles de presse, où Elon Musk, en fait, a dévoilé plusieurs choses, dont déjà une nouvelle technologie de batterie qui est en cours de développement, qui prendra du temps à arriver. Et l'idée, c'est qu'elle est plus compacte, plus écologique parce qu'elle se recycle plus facilement, parce qu'elle remplace le cobalt par du nickel, et surtout elle est 16% plus endurante. Donc l'idée, ça va être un petit peu plus d'autonomie dans les batteries. C'est pas une révolution, mais en tout cas ça va permettre à Tesla d'être indépendant et de fabriquer ses propres batteries. Donc c'est là en fait où il va y avoir du changement, parce que du coup ils peuvent baisser les coûts et baisser le prix des voitures. Il y a en effet la Model S Plaid Edition qui a été annoncée. C'est une Model S avec 840 km d'autonomie. Donc c'est
840 km d'autonomie, je crois que c'est un record. Hein.
C'est un record, en fait, ils s'étaient fait doubler et ils n'ont pas aimé, donc du coup, ils sont passés à... Ils voulaient faire celle-là.
Et donc, les ingénieurs, les gars, vous débrouillez, vous m'ajoutez 50 km d'autonomie. Donc,
c'est ça, c'est toujours évidemment des performances délirantes avec du passage en 0 à 100 en 2,1 secondes, je crois, avec l'équivalent, j'ai noté, 1100 chevaux, le prix 139 000 $, aussi, voilà, quitte à avoir un prix un peu élevé,
autant
se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est aussi là pour montrer que voilà, une voiture électrique peut avoir une grande autonomie. Et surtout, la grosse annonce de ce Battery Day, c'est pas une annonce commerciale, je pense que c'est plus Elon Musk qui a glissé ça comme ça, qui pensait pas forcément que ça allait être autant repris dans la presse, mais ça a été déclaré que la prochaine Tesla, en tout cas le gros projet de Tesla, ça sera en dessous des 25 000 $. Et c'est l'objectif. Donc en dessous de 25 000 $, on va directement affronter du Renault, du Nissan, donc sur les petites voitures électriques. Ça va être permis pas de suite, parce qu'il va falloir attendre justement ces batteries créées par Tesla, qui seront moins chères à fabriquer. Mais à terme, on aura peut-être des petites citadines Tesla électriques. Et voilà, ça a toujours été l'objectif d'Elon Musk, hein, qui depuis le début a dit qu'il ne fait pas des voitures chères parce qu'il aime le luxe, mais il fait des voitures chères parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent, c'est ce qui permet de créer un capital. Et une fois que tu as le capital, tu peux justement baisser en prix et devenir un constructeur ultra grand public. Donc cette voiture à 25 000 $, elle rapproche quand même beaucoup Tesla de cet objectif d'être un constructeur très grand public.
Et puis en plus, Emmanuel, c'est vraiment cette Tesla Model 2, on va l'appeler comme ça parce qu'on peut imaginer que voilà, ça sera le Model 2, soit vraiment taillé pour l'Europe. Parce que évidemment, en Europe, on a des petites routes, des petites rues,
des
petites places, quand on peut encore rouler en ville. Donc c'est une voiture qui est taillée pour l'Europe.
Oui, effectivement. Moi, j'ajouterais deux petites choses sur ce que disait Nicolas. Mmh. Le premier, c'est que visiblement, effectivement, vouloir créer une usine aux États-Unis, c'est aussi un moyen de dépendre moins de Panasonic, qui est aujourd'hui le grand fournisseur en batterie de Tesla, donc de diminuer cette dépendance aux Japonais et d'être de plus en plus autonome. Mmh. Ça vous rappelle quelqu'un dans la téléphonie mobile?
Ça me dit quelque chose.
Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est réduire aussi une dépendance à une des matières premières, qui est le cobalt, qui est un élément aujourd'hui essentiel des batteries. Et c'est d'utiliser de moins en moins de cobalt, parce que le cobalt, aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la République démocratique du Congo, et on ne sait pas dans quelles conditions
est récupéré le cobalt.
Donc, généralement, on le sait à peu près, et ce n'est pas très clean. Donc, et effectivement, depuis le début, Elon Musk veut faire en sorte de moins dépendre de cette matière première-là à cause des conditions d'extraction. Et puis, dernier point sur, effectivement, le prix. Il faut savoir qu'il a déjà fait cette promesse en 2018, et il disait qu'il la tiendrait en 2021. Donc, bon, voilà, moi, j'attends de voir.
C'est vrai.
Parce que Elon Musk, il raconte aussi des histoires à la bourse. Et c'est pour que son cours continue d'être très élevé par rapport aux industries, aux autres industriels. Donc voyons s'il arrive à délivrer, comme on dit, je ne sais pas, le mot.
Cela dit, oui, alors évidemment, c'est un génial un peu fou, hein, mais malgré tout, il est en train de réussir son pari.
Il reste, oui, bien sûr. Oui, dire,
il a un problème sur les délais.
Il y a encore 2 ans. Il a un problème sur les délais, c'est ça.
Oui, il a un problème sur les délais.
C'est une promesse, mais c'est
mais
sur
bon,
l'écoute.
Qui n'a pas des problèmes sur les délais, quoi, aujourd'hui.
Oui, mais nous, on ne s'engage pas pour dire qu'on va aller sur Mars dans un an, alors que lui, il dit dans un an, on va sur Mars à peu près tous les ans. Il y a aussi ça.
Ça, c'est sûr. Ouais, et puis, c'est pas lui qui ira en premier, je pense.
Qui sait, hein, il va envoyer Tom Cruise dans l'espace, on a appris cette semaine, donc après tout, pourquoi pas.
Ouais, mais moi, je trouve attachant, Elon Musk. Il est complètement évidemment fou, mais c'est... Je veux dire, dans un siècle, on se souviendra d'Elon Musk. Ouais. Ça, c'est certain.
Ouais, oui,
il va marquer chances. L'histoire.
Il y a des chances, oui, dans ce genre clair, de personnage qui est taillé pour ça.
Et d'ailleurs, ça ne plaît pas trop à Bill Gates, qui lui a... J'ai l'impression qu'il s'aimait pas, ils s'aiment pas beaucoup tous les deux, et Bill Gates s'amusait, j'y avais une interview il n'y a pas si longtemps, et le journaliste demandait s'il préférait Steve Jobs à Bill Gates. Il disait Steve Jobs est un génie et Elon Musk n'est qu'un ingénieur. Enfin, c'était un peu
ouais,
violent.
Quand même.
On va terminer avec un hashtag qui cartonne sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et qui rend hommage à la mise à jour d'iOS 14 sur iPhone et sur iPad.
Tout à fait, le hashtag c'est iOS 14 home screen, et ça c'est inattendu parce que ce n'est pas du tout une nouvelle fonction d'iOS 14. En fait, ça vient de TikTok, hein, c'est comme souvent dans ce genre de tendance jeune, c'est que je ne sais pas qui s'est rendu compte qu'on pouvait modifier ces icônes dans iOS 14, non pas de manière officielle, parce que vous savez, Apple n'est pas vraiment fan de la personnalisation, mais en passant par l'application raccourci qui permet de créer des automatisations.
Et en fait, il y a une appli, je crois aussi, qui est disponible sur l'App Store, qui permet
pour les widgets. Je commence par les icônes et j'arrive aux widgets. Mais l'idée, justement, c'est depuis cette application raccourci, on crée des automatisations toutes simples. C'est, on dit par exemple, ouvrir Facebook. Et on peut donner une icône à ce raccourci. Et c'est là qu'on se retrouve en fait avec des gens qui personnalisent leur écran d'accueil en mettant des photos personnelles, en mettant n'importe quoi, en faisant plein de petites blagues.
En redesignant les petites icônes.
C'est ça, j'en ai vu un moi que j'ai adoré, je pense que c'est mon grand préféré. C'est quelqu'un qui a mis la tête de tous les PDG de chaque marque.
Ah,
genre Mark Zuckerberg pour Facebook, Tim Cook pour les applications d'Apple. Mais c'est très très drôle.
Ouais,
c'est
drôle,
c'est plutôt bien fait. Il y a vraiment de bonnes idées. Et justement, tu en parlais, les widgets, ça c'est pour le coup la vraie nouveauté d'iOS 14. Là aussi, Apple ne permet pas de faire ce qu'on veut avec les widgets. C'est chaque application a ses widgets. Mais on a des développeurs comme Widget Smith, par exemple, qui proposent justement de mettre des photos dans des widgets. Donc, par exemple, vous mettez une photo de vous et votre meilleur ami à côté de vos icônes. Et du coup, on peut avoir une page bleue, une page rouge, une page verte à chaque fois sortie. Et il y a eu énormément de créativité sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok. Du coup, on a vu vraiment de jolies choses. Et des moins jolies choses, mais bon, voilà, ça a les goûts et les couleurs, hein, évidemment, c'est toujours comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ce phénomène, c'est que je ne peux m'empêcher de me demander ce que pense Apple. C'est Apple a toujours été l'anti-personnalisation. Est-ce qu'ils voient ça avec beaucoup d'engouement, en mode « Ah bah c'est cool, c'est vrai, ça fait parler de nous », ou est-ce qu'ils disent « Mince, on a fait une erreur, on n'aurait pas dû laisser cette fonction raccourcie ».
Envoyez-moi le correctif, s'il vous plaît.
Il y a deux scénarios, soit ils vont ignorer le truc, ils vont laisser enterrer.
Oui, parce que ça transforme totalement l'ergonomie du téléphone.
Ah, ça n'a plus rien à voir, d'autant plus que ces raccourcis ne sont pas du tout optimisés, donc quand vous ouvrez Facebook, ça va ouvrir raccourci, puis ouvrir Facebook.
Ouais, d'accord.
Donc en termes d'expérience, justement, c'est pas bien. Mais la question justement, c'est est-ce qu'Apple va continuer justement sur cette lancée en disant « Voilà, on veut compliquer la vie des gens qui font ça », ou est-ce qu'Apple va voir qu'il y a un marché et soit retirer justement cette ouverture de raccourci obligatoire, soit créer lui-même un outil de personnalisation. C'est pas le style de la maison, mais d'un autre côté, regardez l'Apple Watch. L'Apple Watch qui sert souvent de précurseur à ce qui va arriver sur iOS et l'iPhone, permet de personnaliser les complications, de mettre des photos en fond d'écran directement dans ces complications. Donc ça veut dire que Apple est conscient que la personnalisation peut avoir du bon. Donc est-ce que c'est pas mieux pour eux de créer un réglage dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour autoriser ça officiellement? À voir, mais je trouve ça marrant comme tendance.
Emmanuel, la personnalisation, c'est pour toucher en fait tous les jeunes aujourd'hui. Il y a une vraie concurrence entre Android et iPhone. Et si avec son iPhone, un ado peut personnaliser son téléphone comme il le veut, c'est un atout.
Oui, en même temps, c'est ce que dit Nicolas, c'est quand même la plus grosse révolution sur un iPhone depuis son lancement en 2007,
en termes d'ergonomie.
C'est la première fois qu'on peut se dire, mais sur quel téléphone je suis?
Oui.
Non, mais c'est
bien
vrai.
Sûr.
On peut se retrouver avec une ergonomie Android, en fait, finalement.
Ouais, tout à fait.
On peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que les widgets, déjà, Apple savait avec les widgets que, c'est la, comme dit Emmanuel, c'est jusqu'à maintenant, entre l'iPhone OS 1 et iOS 13, on avait quand même un concept d'icône qui était trié par ordre de haut en bas, et c'est tout. Là, avec iOS 14, il y a des widgets, donc on peut un peu plus personnaliser l'interface. Maintenant, le fait que tout le monde crée complètement son propre thème esthétique, je pense que Apple l'avait vraiment pas vu venir, mais c'est cool aussi. C'est ça qui est marrant avec la créativité des gens. Il y a aussi des gens sur TikTok qui ont trouvé une fonction dans Raccourci qui permet, par exemple, quand vous branchez le chargeur de votre téléphone, d'utiliser la fonction VoiceOver pour dire quelque chose. Donc normalement, ça va être pour les personnes aveugles, par exemple.
Oui. Et là,
mais du coup, on branche le téléphone et le téléphone, il fait « Ah, merci, merci frère, tu m'as rechargé, c'est cool. » Il y a plein de trucs comme ça, avec des trucs plus vulgaires, ou alors la personne se met en ne pas déranger, ça sert à rien, t'as pas d'amis de toute façon. Mais c'est super drôle, il y a vraiment plein d'idées et c'est cool, en fait.
Mais je pense que Apple n'imaginait même pas l'impact que ça pouvait avoir, cette signification.
C'est que moi, j'ai revu Tariq Rim, donc un ancien de l'Internet français, qui a dit « Oh, regardez, c'est NetVibes en 2005.
» Et c'est vrai
que les widgets, à l'époque, effectivement, sur Yahoo, NetVibes, etc., on pouvait mettre des widgets, après on a perdu de vue les widgets, et puis là d'un coup,
ça revient.
15 ans après, hop, le retour.
Après, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça va. Enfin, on verra bien.
À voir.
Merci à tous les deux, merci Nicolas.
Merci.
Que vous pouvez retrouver sur 01net.com et puis l'Express, bien sûr, avec cette interview au sujet de Facebook, Instagram qu'on peut retrouver sur l'Express en papier.
Oui, papier et web dans quelques. Là, ce week-end.
Et voilà, très bien. Merci beaucoup Emmanuel Paquet.
Merci.
Les nouveautés Amazon dans un instant, Amazon Device qui a dégainé pas mal de choses, des nouveaux Echo, de nouveaux Fire Stick TV, mais aussi un Cube télé et puis pas mal d'autres choses, des caméras. On en parle dans un instant avec le porte-parole d'Amazon France, le papa d'Alexa. À tout de suite.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV. RMC, 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Merci encore une fois d'être là, fidèle à De Quoi Je Me Mail, tous les week-ends, vous le savez, à la fois à la radio sur RMC le dimanche matin, mais aussi à la télé sur votre box, sur la chaîne 01 TV, et puis sur YouTube et sur 01nettv.com. C'était la fête ces dernières heures chez Amazon. Amazon qui a annoncé énormément de nouveaux produits. Dans un contexte d'épidémie, c'est quand même assez intéressant pour le signaler. Alors, de nouveaux Echo, de nouveaux Fire Stick. Vous savez, c'est un petit peu la branche télévision d'Amazon pour regarder bien la télé. Pas mal de nouveautés sur ce sujet, de nouvelles caméras aussi, Blink, mais aussi avec Ring, qui a été racheté il y a quelques années de cela par Amazon. Et puis, ce fameux système de jeu dans le cloud Luna, qui fait beaucoup parler depuis quelques heures. Pour commenter toutes ces annonces, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Dali. Bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes, Philippe, le monsieur Alexa en France, le papa d'Alexa en France. On avait eu l'occasion de discuter ensemble il y a quelques mois de cela, juste après le confinement, justement, pour expliquer comment Alexa, en fait, avait explosé durant ce confinement. Vous êtes là avec nous pour commenter toutes ces annonces qui ont été faites hier, et on le voit avec tous les produits qui sont tout autour de vous. Vous avez annoncé pas moins de 9 produits hier.
Absolument.
Pour Amazon, qui sortiront en France, c'est ça hein ?
C'est 9 produits qui sortiront en France, dont certains qui sont déjà disponibles ou en précommande.
D'accord.
Je pense que c'est probablement la meilleure annonce de lancement de produits qu'on a fait, avec des produits qui sont intéressants à plusieurs égards pour les clients. D'abord, c'est des produits innovants, c'est des produits qui sont abordables, c'est des produits qui redonnent aussi du contrôle sur la confidentialité, puis c'est des produits éco-responsables dans leur conception.
Oui. Et puis, on le voit, il y a le hardware, et puis évidemment, il y a le soft. Toute l'intelligence artificielle qui fait que Alexa fonctionne et fonctionne de mieux en mieux. Il y a pas mal d'annonces qui ont été faites hier, notamment sur l'intelligibilité d'Alexa, la manière dont elle parle aussi, qui parfois peut faire un peu robot. Et en fait, l'objectif d'Amazon, c'est d'améliorer en fait la diction d'Alexa, c'est ça ? C'est ce qui a été un peu annoncé hier, je crois.
L'idée, c'est d'avoir l'expérience la plus naturelle possible et l'expérience qui permet, entre guillemets, aux clients d'avoir une interaction fluide et des réponses pertinentes. Donc tout ça, ça participe, entre guillemets, de l'innovation qu'on a souhaité annoncer hier. Donc si je peux vous présenter rapidement tous les produits qui ont été annoncés.
Bien sûr, on y va.
On a d'abord le Fire TV Cube. Fire TV Cube qui est à 119,99€.
Donc on est sur la télé, c'est ça ?
On est sur la télé, c'est une box de streaming très puissante qui est commandable par la voix. Et qui est disponible aujourd'hui sur Amazon, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui.
Donc ce produit, en fait tous les produits que vous avez là sont déjà disponibles ou vont arriver d'ici la fin de l'année, c'est ça ?
Certains d'ici la fin de l'année, comme le nouveau Echo Show.
Alors on va en parler dans
un
instant.
Et vous avez la nouvelle gamme Echo.
D'accord.
Format sphérique, une innovation en termes de design. Ceux-là sont en précommande dès maintenant.
on va en parler dans un instant, excusez-moi, je vous coupe, mais qu'on se focalise d'abord sur toutes les nouveautés télé, en fait, c'est assez intéressant. Donc, le Cube, nouveau produit, hein, c'est pas une nouvelle incursion hein, d'Amazon dans la télévision, puisqu'il existe déjà des Fire TV Stick, qui avaient la particularité de ne pas être cher du tout, et qui permettaient d'avoir en fait, tous les services de streaming, au-delà de Amazon Prime Video, hein, parce que tous les services y sont. Hein.
Netflix, vous pouvez accéder à Twitch, vous pouvez accéder à YouTube.
Ouais.
Donc on annonce dans cette gamme, dans cette famille, trois produits. Donc le Fire TV Cube,
oui,
disponible dès à présent. Le nouveau Fire TV Stick, que vous pouvez précommander. Vous avez aussi le Fire TV Stick Lite, qui lui a 29,99€, et qui est en fait la porte d'entrée aux box de streaming et l'accès donné à tous les clients qui souhaitent rattacher ces produits à leur télé, de quelque part upgrader leur expérience télé.
D'accord. Donc, trois nouveaux produits télé. La différence entre le Cube et le Fire Stick 4K, c'est que...
On le contrôle par la voix.
Mais cela dit, avec le Fire Stick 4K, on peut aussi par la télécommande, si j'ai bien compris.
Par la télécommande. Donc là, on est en Farfield. C'est-à-dire que vous parlez Alexa, vous allez activer Alexa.
C'est un peu comme une enceinte.
Absolument.
Je ne suis pas obligé d'appuyer sur un bouton.
Tout à fait.
Et l'autre particularité, je crois qu'il y a une autre option.
C'est puissant.
Ouais,
et vous avez la possibilité aussi de rajouter une webcam et d'avoir une conversation via votre télévision, et d'avoir une expérience de chat avec des amis. Enfin, pas de chat, mais de visioconf avec des amis.
D'accord. Alors, ce produit est d'ores et déjà disponible.
Tout à fait.
À quel prix ?
119,90€.
On voit que là, clairement, vous venez marcher sur les plates-bandes de vos amis d'Apple, hein, avec Apple TV, puisque finalement, ce produit est tout aussi puissant qu'un Apple TV et permet de faire beaucoup de choses.
On avait le souhait d'avoir un produit aussi puissant qui puisse intéresser des gamers, qui puisse intéresser des personnes qui veulent avoir un appareil très puissant pour la restitution visuelle en HD. Donc on est très content de lancer ça aujourd'hui.
Vous parlez de gamers. Est-ce que c'est un rapport avec Luna, ou est-ce qu'il y a malgré tout assez de puissance pour faire tourner des jeux à l'intérieur de ce Cube sans passer par Luna ?
Vous avez déjà une sélection de jeux disponibles sur les Fire TV Stick. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un Cube pour pouvoir accéder à un certain nombre de jeux que vous pouvez utiliser par la voix ou via une manette que vous voulez rajouter. Donc Luna, c'est une annonce qui est en marge, et vous avez déjà une sélection de jeux disponibles sur les Fire TV Stick.
D'accord, donc il y a deux chapitres de jeux hein, chez Amazon.
Tout à fait.
Les jeux qui sont à l'intérieur qu'on télécharge via un store et avec lesquels on joue, hein, et puis donc la partie
cloud gaming
on va y revenir dans un instant. Donc, trois Fire Stick, les trois sortent en même temps, ou est-ce que c'est la primeur pour le Cube ?
Lui, il est déjà disponible aujourd'hui, vous pouvez l'acheter.
Les
autres sont en précommande à 39,99€ et 29,99€, et ils arriveront très rapidement chez vous.
29,99€, là encore, hein, c'est le prix d'un Chromecast, hein, à peu près. Donc ça, c'est pour la télé. Alors, on voit là toute une batterie d'enceintes. Alors, il y a la petite, la
ça,
moyenne.
Ça, c'est le nouvel Echo.
Voilà, le nouveau Echo, qui a une forme qui n'a strictement rien à voir avec les précédentes. Hein.
Absolument. Donc celle-là encore, c'est de l'innovation, c'est de la rupture. On a souhaité pouvoir capitaliser sur ce qu'on a appris des lancements précédents, donc technologie Zigbee, un hub Zigbee qui vous permet d'identifier les objets connectés autour de vous et pouvoir les pairer et les utiliser avec Alexa.
Alors le Zigbee, on peut expliquer ce que c'est. C'est un standard d'onde,
tout à fait. Hein,
qui permet de faire communiquer certains objets, hein, c'est ça ?
Exactement. Et du coup, les objets vont se reconnaître et vont pouvoir opérer les uns avec les autres.
Et ça, c'est nouveau ou pas ? Le fait que
ça, c'est pas nouveau. On avait déjà du Zigbee dans la précédente version du Echo. Mais on a vu que l'intérêt des clients était manifeste, donc on a souhaité capitaliser sur cet avantage-là.
Donc ça veut dire que tous les produits Echo seront compatibles Zigbee à l'avenir ou pas ?
Celui-ci, oui. Il y a un standard aussi dont on a parlé de compatibilité entre Apple, Google et Amazon.
Ouais, c'est donc, le gros morceau. Hein. Ça veut dire qu'il y aurait une brique unique pour ces trois géants d'Internet qui ferait que tous les objets connectés pourraient se connecter en fait aux trois, c'est ça ?
L'idée, c'est ça.
C'est
pas une annonce,
mais
le sens de l'histoire, c'est ça. C'est de rendre l'expérience la plus simple pour les clients. Donc, la technologie Zigbee, ça en fait partie, et ce standard dont on parle, qui va arriver bientôt.
On sait qu'il arrive. On a une idée de l'arrivée de ce standard ?
J'ai pas de date à vous communiquer là-dessus, mais c'est un gros sujet.
Oui, c'est un gros sujet.
Après, le son, évidemment, puisque ce sont des appareils qui vont se trouver dans le salon, donc l'expérience de salon, elle est primordiale. Donc vous avez un son qui est beaucoup plus intéressant avec du Dolby Atmos. Vous avez également une expérience de son enveloppant. On va pouvoir, grâce à cet appareil, comprendre l'acoustique de l'environnement dans lequel vous êtes et optimiser quelque part
la réception. Elle va analyser en fait l'espace de la pièce pour diffuser le son de la meilleure manière possible, c'est ça ?
C'est ce qu'on avait sur l'Echo Studio.
Oui.
Et puis on s'est rendu compte.
C'était votre enceinte haut de gamme.
Exactement.
Hein. Et ça descend en gamme en fait. Ça arrive sur les Echo.
À 99,99 €, vous avez la même expérience de son enveloppant Irish et vous avez la technologie Zigbee. Très beau produit.
Est-ce qu'on... C'est compatible multi-room, ça ? C'est-à-dire, si j'en achète deux ou trois, je peux me faire, par exemple, un petit home cinéma, en mettre deux devant, deux derrière, une dans la chambre, etc.
C'est l'idée, dans la continuité de ce qu'on offre aujourd'hui, le multi-room fonctionne déjà. Donc oui, il fonctionne en multi-room.
D'accord. Et là, ça arrive quand, ça, cet écho-là ?
Ça, c'est en précommande dès aujourd'hui, à 99,99 €.
Quand vous dites en précommande, ça veut dire que la
livraison arrive dans les semaines.
Dans les semaines qui viennent, en fait. Très bien. Alors là, il y a le petit frère.
Petite sœur. Même idée. On est sur des produits qui sont plutôt des produits de table de chevet, on va dire. Celui-ci, je le trouve absolument génial parce qu'il va y avoir un affichage de l'heure ou d'un minuteur ou de la température.
Alors, ça existait déjà, mais ça n'avait pas la même forme. C'était un appareil un petit peu plus plat.
Exactement. Ouais. Et là aussi, on revisite les standards et on innove avec un form factor très sympathique et la possibilité d'appuyer sur la tête de l'appareil pour gagner quelques minutes de sommeil en plus. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça plaît.
Oui. On peut dire à Alexa, j'ai envie de faire la grasse mat, donc laisse-moi tranquille. C'est ça,
c'est un peu ça. Et ça arrive à 60,99 € pour celui avec l'affichage et 59,99 € pour l'autre, sachant que vous savez très bien qu'on fait des promos de manière régulière.
Oui, et puis bientôt le Black Friday, donc j'imagine que là aussi, il y aura peut-être des promos. Juste une question, les fonctionnalités de l'écho bleu sont aussi sur les petites, c'est-à-dire qu'on peut écouter la musique de la même manière, elles sont connectables de la même manière, elles sont Zigbee.
Elles sont pas Zigbee, celles-ci.
Elles sont pas Zigbee,
non,
celles-là.
Les petites ne sont pas Zigbee.
D'accord.
Néanmoins, votre expérience avec Alexa est exactement la même que sur un autre appareil de la gamme Echo. Alexa est, entre guillemets, universelle dans la façon dont vous allez pouvoir interagir avec elle, quel que soit l'appareil.
D'accord. Donc voilà pour la petite gamme ronde donc des échos. Et puis donc il y a le nouvel Echo Show qu'on voit ici. Alors hier on a pu voir une démo qui était assez impressionnante parce que c'est vrai que cet Echo Show, tourne sur lui-même, c'est ça ?
Des mouvements intelligents. Donc ils vous suivent. Il vous donne la possibilité évidemment de ne pas être suivi. C'est là où on innove également. C'est pour les personnes qui souhaiteraient ne pas avoir ce mouvement de l'Echo Show, vous pouvez physiquement ou par la voix lui dire de ne plus suivre. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il va vous accompagner dans tous vos mouvements au quotidien. Admettons que vous soyez dans votre cuisine et que vous souhaitiez avoir toujours le regard sur l'écran alors que vous vous déplacez et voir la recette, l'écran va vous permettre d'avoir accès à ça. Admettons que vous soyez en conversation ou en appel avec votre famille, l'avantage c'est que vous avez beau vous déplacer, l'écran vous suivra, et puis en plus, on va toujours remettre votre photo, votre vidéo au centre de l'appareil. Donc, l'expérience de gaming aussi, elle va avoir plus de sens avec un écran et un appareil de ce type-là. On est aussi très content de la performance en termes audio. Il y a un woofer, deux tweeters, et puis ils vont vous suivre également à mesure que vous vous déplacez.
D'accord. Donc là, la nouveauté, c'est que finalement, je suis dans la cuisine, par exemple, et je suis en train de me balader, etc. L'appareil va me suivre. Il arrive à me détecter, en fait, c'est ça ?
Oui,
absolument. Il y a un capteur de présence qui va suivre la personne, ce qui fait que la personne qui est en face, en visio, va pouvoir toujours me voir.
C'est ça. C'est le principe.
D'accord. Et si j'ai pas envie que le système me suive, parce que bon,
si vous avez pas envie, et c'est naturel.
Je sais pas si vous avez fait de la visio comme moi, ça m'arrive, mais de temps en temps on est sur le côté, on peut se mettre le doigt dans le nez, enfin je sais pas, ou faire un truc, on n'a pas envie forcément. Là, on appuie sur un bouton, il arrête de bouger.
Vous pouvez obturer la caméra,
oui.
Ou vous pouvez décider de l'éteindre électroniquement. Il va plus rien entendre, il va plus bouger.
D'accord.
Donc là encore, c'est ce qui préside à tout ce qu'on croit être bon pour les clients en termes de contrôle de la confidentialité. Et ça vient avec les lancements de tous ces produits et ça vient renforcer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Typiquement aujourd'hui, vous pouvez dire à Alexa, je ne souhaite pas être enregistré. Je souhaite aussi comprendre où se trouvent mes paramètres de confidentialité.
C'est-à-dire qu'il y a plus de transparence de votre part et la possibilité, par la voix simplement, de désactiver certains enregistrements, c'est
ça ? Absolument.
Alors qu'avant, c'était possible, mais il fallait aller dans l'appli, il fallait farfouiller dans les paramètres, etc.
On l'a renforcé parce que, alors, dès le début, on a conçu des appareils qui intégraient la confidentialité à leur cœur. Vous voyez que l'écran se cerclait de bleu, donc il vous signalait que l'information passait dans le cloud. Vous pouviez muter électroniquement par la main. Mais là, on est allé plus loin. On donne la possibilité au client de pouvoir effacer la totalité des enregistrements. On donne aussi la possibilité au client de demander à Alexa de ne rien écouter ou de lui dire qu'est-ce que tu as entendu ou efface ce que tu viens d'entendre. Et il y a un centre de confidentialité qu'on a mis en place et les clients peuvent demander à Alexa directement de recevoir des informations pour mieux comprendre comment paramétrer leur confidentialité parce que c'est des éléments extrêmement personnels. Mon niveau de confidentialité n'est pas forcément le vôtre. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus alerte et précis là-dessus.
Vous avez remarqué, c'était un point de friction forcément ça ?
Tout à fait, le fait
qu'il y ait des micros sur vos appareils ou des caméras et que les gens, de manière légitime, hein, sans doute, se posent des questions sur ce que vous enregistrez ou ce que vous n'enregistrez pas, en fait.
Et ça, on l'a vu notamment, vous parliez du Covid, mais oui, il y a eu une interaction accrue avec Alexa et il y a eu des demandes aussi qui ont été formulées.
D'accord.
Donc on est content de lancer cette sélection de 9 nouveaux produits malgré le Covid, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler, mais on a aussi écouté les clients et on a renforcé ce niveau de personnalisation et de contrôle autour de la confidentialité.
Alors, les annonces qui ont été faites hier, il y a une annonce, on va dire, qui est pour la France, et puis il y a d'autres produits qui ont été annoncés aux US, ou de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore là, comme par exemple le Guard, qui était un truc que je trouve assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ?
Le principe d'Alexa Guard, c'est de permettre d'identifier des bruits qui seraient des bruits anormaux et qui permettraient d'alerter l'utilisateur suite justement à la détection de ces signaux-là. Donc on est dans le domaine de la sécurité.
Exemple, j'ai un Amazon Echo dans ma chambre ou par exemple dans la cuisine.
Un bruit de glace.
Voilà, il y a une glace qui se casse.
Exactement.
Et lui,
donc, là, vous recevez une notification.
D'accord.
Je crois avoir compris qu'il y avait un bruit suspect, type bruit de glace. Et donc, on informe le client d'une possible intrusion.
Donc là, je reçois une notification sur mon téléphone. D'accord. Et après, je peux... l'interaction s'arrête là ou est-ce que je peux aller plus loin
Je ne suis pas la bonne personne pour répondre précisément à ces questions. C'est des produits qui sont en train d'être déployés aux États-Unis, ne sont pas encore disponibles en France.
Mais c'est déjà une information importante.
Mais c'est une information qui alerte le client.
Il y a quelque chose qui est étonnant. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les algorithmes que vous analysez, c'est ça ?
C'est ça, précisément. On arrive à distinguer la nature des bruits et puis via Alexa, on arrive à alerter rapidement l'utilisateur d'une intrusion potentielle.
Alors ça n'est disponible qu'aux US, d'accord ? Ça pourra arriver un jour en France ou pas, à votre avis ?
Il y a toujours une logique de déploiement dans les autres pays. Maintenant, il y a aussi une contrainte de localisation. Là, c'est encore plus vrai quand il s'agit de la langue en général.
Ouais.
Donc oui, on espère que ça viendra. Maintenant, il n'y a pas de date à annoncer.
Après, c'est un abonnement, hein, je crois. Hein. Il y aura
un petit
abonnement de quelques dollars par mois pour bénéficier de cette fonctionnalité. On voit aussi que toute cette gamme Echo sert, on va dire, pour nos parents, avec des fonctionnalités aussi qui ont été annoncées hier, qui sont assez intéressantes, je crois, concernant l'analyse de la vie de nos parents. On est un petit peu comme garde, finalement. Hein, c'est-à-dire que l'écho va, enregistrer ou en tout cas donner des informations aux enfants, par exemple, sur, on va dire, le quotidien de nos anciens, c'est ça, je crois ?
C'est Alexa Care. Alexa Care et Alexa Care Plus. Le principe est d'apporter un niveau de support et d'assistance à des personnes qui peuvent être dans des situations de potentielle fragilité et de garder un contact permanent entre un enfant et ses parents, ou son parent, de façon à l'alerter s'il y a une, à un moment donné, potentielle chute ou une absence de prise de contact ou de mouvement. Et effectivement, il y a une personne qui va être désignée comme étant la personne un peu référente et qui va recevoir ces informations régulièrement.
Mais qui ne recevra pas toutes les informations. C'est-à-dire, je n'écouterai pas les conversations de mes parents. C'est simplement que, par exemple, il n'y aura pas eu d'interaction. D'habitude, je ne sais pas moi, il y a une interaction à 9h parce que là, mon père et ma mère se lèvent. Là, il n'y a rien, il est midi. Peut-être que je recevrai une notification en disant, attention, d'habitude, il y a une activité, là, il n'y en a pas.
C'est le principe qui a été annoncé hier.
D'accord.
Et c'est paramétrable.
Là encore, ce n'est que pour les US, mais on peut imaginer que ça se déploiera un jour en France.
On espère.
On espère. Autre service qui a été annoncé, Philippe Dalli, alors c'est pas trop votre département, mais malgré tout, on peut en glisser un mot, c'est Luna, hein, donc c'est ce fameux service de cloud gaming qui était très attendu, hein. On se doutait que Amazon allait sortir un service de cloud gaming. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Ce que je peux en dire, c'est que, et ce que j'ai compris, parce que j'étais comme vous, spectateur de l'annonce, et je suis pas spécialiste, c'est que c'est effectivement une plateforme de cloud gaming qui vient compléter un petit peu l'expérience de jeu qu'on peut déjà avoir sur une Fire TV ou Fire TV Cube.
On se connectera d'ailleurs sur Fire TV ou Fire TV Cube pour y accéder.
Probablement. C'est une option. Je pense qu'on peut aussi utiliser un ordinateur.
Oui. Ou même un iPhone ou même un smartphone Android.
Y a une manette qui vient avec. Et puis, le souci, c'était vraiment d'apporter une expérience confortable pour les gamers qui ont besoin d'avoir un niveau de puissance et d'interactivité hyper rapide. Et c'est ce que Luna apporte avec, finalement, un système qui fonctionne sur AWS et puis des optimisations à la milliseconde.
D'accord. Avec une manette, voilà, c'est ça, c'est ce que vous parliez de millisecondes, mais je crois qu'il y a une innovation qui a été annoncée. Cette manette se connecte non pas, par exemple, au Fire TV Cube ou au stick, mais directement, alors je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je crois qu'elle doit être Wi-Fi, je pense, elle doit se connecter directement aux serveurs d'AWS, qui sont des serveurs d'une extrême rapidité, ce qui fait qu'on arriverait à gagner 20 millisecondes. Et on sait que le problème du cloud gaming, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les jeux. Hein. Et là, 20 millisecondes, il paraît que c'est énorme, et ça serait une vraie innovation. Et là encore, ça marcherait sous abonnement, je crois. Hein. Je crois que
j'ai compris que ça fonctionnait sous
abonnement. C'était à $5. Et là encore, pour l'instant, ce n'est pas lancé en France.
Pas de date. Pas annoncé pour la France pour l'instant.
Voilà, et je crois qu'il y a un accord aussi qui a été fait avec Ubisoft. D'ailleurs, on le voit hein, là, si vous êtes avec nous en vidéo, un accord avec Ubisoft sur les principaux, on va dire, blockbusters d'Ubisoft qui tourneraient sur cette plateforme Luna. Juste un mot pour revenir sur la confidentialité des données. On voit qu'il y a pas mal de caméras aussi hein, qui ont été, annoncées. Alors, vous pouvez nous parler de Blink.
Hein. Tout à fait.
Qui est un nouveau système aussi, enfin, qui est une nouvelle gamme de caméras. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
On annonce deux caméras Blink, une indoor et une outdoor, avec optimisées pour avoir une autonomie très forte de 2 ans, avec une résolution HD. Donc, c'est vraiment des produits qui sont intéressants pour les clients qui ont ces besoins, à 99,99 € chacune. Et évidemment, elles sont compatibles avec Alexa.
Donc, ce sont des petites caméras qu'on pose n'importe où.
Intérieur-extérieur.
Intérieur-extérieur, donc il y en a une qui est étanche et qui,
absolument.
Voilà, qui supportera la pluie, etc.
Et avec Alexa, vous avez la possibilité de les consulter et de leur demander « montre-moi la caméra extérieure » ou « montre-moi la caméra intérieure » et d'avoir, par exemple, sur votre Echo Show, la restitution en HD de l'image et de ce qui est capturé.
Très bien. Là aussi, vous voulez marcher sur les plates-bandes de d'Arlo, hein, qui est un service aussi américain de caméra connectée sans fil. Sans aucun fil, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, il y a des piles et c'est le Wi-Fi. Donc, on peut les installer n'importe où. On n'est pas obligé de tirer des câbles pendant... c'est avec tout ce qu'on sait qui est fastidieux. Là encore, je maîtrise mes données personnelles. Je peux couper, je peux masquer. Je crois que je peux même masquer certaines zones de l'écran, etc.
Oui. Vous avez la possibilité de personnaliser votre expérience, tant dans le contrôle des données que vraiment l'expérience de captation de l'image.
Et puis un autre produit, alors là, qui a été annoncé par Ring. Ring, qui est une filiale hein, d'Amazon, que vous avez racheté il y a quelque temps de cela. C'était étonnant. Alors, imaginez une caméra volante, c'est ça
hein ? Ah, c'est bluffant. Moi, j'ai trouvé ça absolument bluffant. J'ai découvert ça en même temps que vous. Oui, il semblerait que ce soit un espèce de drone de maison. qui permet de capturer, entre guillemets, l'image par la vidéo de ce qui se passe au sein de votre maison à un moment donné. Effectivement, c'est sans doute très propice pour les grandes maisons aux États-Unis, peut-être un peu moins pour les appartements parisiens, mais ceci dit, sait-on jamais. Mais c'est une vraie expérience très innovante.
Ouais, ouais, bah écoutez, il faudra qu'on en reparle parce que c'est vraiment un produit étonnant. Alors là, on voit pas les bonnes images, hein, mais c'est une espèce de comment dire, voilà, un petit drone très léger qui, à la demande, peut se... Et je crois que c'est encore lié à des bruits oui. un peu étonnants qu'on pourrait entendre dans la maison. Et ce petit truc se soulève et vole dans la maison jusqu'au bruit pour analyser, en fait, voilà, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit à quoi ça ressemble. C'est assez étonnant. Et là encore, c'est un produit qui n'est pas annoncé en France, pour l'instant ?
Non, pour l'instant, non.
Est-ce qu'on a des produits Ring qui sont disponibles en France, d'ailleurs ?
Oui, on a des produits Ring qui sont disponibles en France. Oui.
Donc on peut imaginer qu'à terme, ça pourrait sortir. Ça a été annoncé, je crois, aux alentours des $250, ce produit. Voilà pour toutes ces annonces. Vous n'avez pas chômé, hein ?
Non, on est très contents. C'était une belle sélection, de belles annonces. Et on a hâte que les clients français puissent les retrouver chez eux.
Voilà, bah écoutez, ça arrive. Hein. On aura de quoi se faire des cadeaux sympathiques pour les fêtes de fin d'année. Merci Absolument. Beaucoup Philippe Dalli d'avoir
Merci
commenté voilà, quelques heures juste après les annonces américaines. Tous ces nouveaux produits donc d'Amazon Device, Philippe Dalli qui est, rappelons-le, le papa d'Alexa en France. Merci beaucoup. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On est là, vous le savez, chaque week-end en audio sur rmc.fr, le dimanche matin à la radio et puis, vous le savez, en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box et sur 01tv.com et sur YouTube. Merci de nous suivre en tout cas et à très bientôt.
De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.